Le week-end dernier, une enquête publiée dans Libération révélait qu'autour des années 2010, un groupe d'une trentaine de journalistes hommes s'était amusé à importuner, intimider, accabler, humilier, voire harceler d'autres journalistes, souvent des femmes, via les réseaux sociaux. À coups de tweets sexistes, homophobes, racistes, de canulars téléphoniques, de photomontages pornographiques. Ce groupe, constitué sur Facebook, groupe privé, s'appelait la Ligue du LOL, LOL comme rire aux éclats, et cette affaire depuis fait grand bruit. Une petite dizaine d'entre eux, dont des rédacteurs en chef web, à Libération et aux Inrecuptibles ont été suspendus ou se sont mis en retrait de leurs activités. Jeudi, dans une tribune au Monde, 900 journalistes ont dénoncé une profession rongée, je cite, par un sexisme systématique. Et hier, dans Libération, ce sont 600 étudiants et étudiantes qui ont appelé à un sursaut. Ligue du LOL, quand MeToo s'invite dans les médias, c'est notre sujet de Fabrique médiatique ce matin, avec deux journalistes que nous avions reçus le 28 octobre 2017 pour nous demander à quoi servent les médias dans les affaires de harcèlement sexuel. Bonjour Aude Loriot.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole du collectif Prenons la Une, qui est une association de femmes journalistes engagées pour une juste représentation des femmes dans les médias et pour l'égalité professionnelle dans les rédactions. C'est vous qui êtes à l'origine de la tribune Dans le Monde dont je parlais. Et avec nous également Lénaïque Bredoux. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste à Mediapart, merci beaucoup d'être avec nous également, Lénaïque Bredoux. Juste un mot très simple pour commencer. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette affaire? Est-ce que vous êtes d'accord avec Michel Guérin, par exemple, dans Le Monde hier, qui disait « La Ligue du LOL pourrait être notre affaire Weinstein ». D'ailleurs, plusieurs articles de la presse étrangère ont titré « Un MeToo à la française ». Aude Loriot.
Bon, moi, je pense qu'il faut nuancer un peu la comparaison avec le MeToo à la française pour plusieurs raisons. Parce que déjà, il y a déjà eu des révélations sur la presse au moment de l'explosion de MeToo. Je pense à l'affaire Aziza, du nom de ce journaliste LCP, qui avait été... une journaliste l'a accusé d'agression sexuelle. Et puis, il y a eu l'affaire Éric Monnier, du nom de l'ancien directeur de France 2. Voilà, il y a déjà eu plusieurs affaires. D'ailleurs, je pense qu'il y a une autre affaire à Patrice Bertin, je crois, à France Inter.
Il y en a ici, effectivement. Si.
De toute façon, c'est dans toutes les rédactions, ça, c'est, on peut le dire, ou quasiment toutes.
Donc vous n'avez pas été pas spécialement sidéré. C'est d'ailleurs un peu bizarre, d'ailleurs, comme si le milieu journalistique était à part, qu'on entend cette sidération.
Alors, sidéré par l'affaire de la Ligue du LOL? Non, pas du tout, parce que nous, ça faisait... pas du tout. Je vais nuancer. Ça faisait plusieurs mois qu'on a discuté entre nous au sein de Prenons la Nuit. On savait qu'il y avait eu des enquêtes en cours. Donc voilà, on n'était pas surprise, si vous voulez, de voir qu'il y avait cette histoire. En revanche, il y a une ampleur des témoignages qui, là, a dépassé, je pense, tout le monde, y compris les victimes qui se connaissaient pour certaines entre elles, mais qui ne connaissaient pas toutes les victimes. Et là, il y a eu un flot de témoignages qui, là, rappelle un petit peu cette affaire, rappelle un petit peu MeToo, je pense.
Lénaïque Bredoux, même question. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous?
Je pense effectivement pour faire attention avec la comparaison avec l'affaire Weinstein, parce que par ailleurs, dans l'affaire Weinstein, on parle quand même d'accusations de viol, de témoignages de viol répétés. C'est pas le cas là dans ce qui est sorti sur l'affaire de la Ligue du viol. Hein. C'est pas du tout pour relativiser, mais simplement faut quand même dire, c'est pas les reproches sont pas de même nature, la gravité des faits reprochés n'est pas du tout la même. Bon, ça c'est mis à part cette objection, il y a quand même par moment et on a vu ça ces dernières années sur ces sujets, par moment comme l'impression des digues sautent, c'est-à-dire l'empêchement de parler, de dire, ou bien d'être entendu ou cru, et que tout à coup, par une révélation, par une enquête, tout d'un coup la parole, il y a un flot qui s'exprime et qui est cette fois entendu ou cru, parce que là, comme d'habitude, il y avait eu des alertes préalables que moi-même, par ailleurs, je n'avais pas du tout saisi, je dois reconnaître, mais sur les réseaux sociaux, il y avait eu un courrier diffusé il y a quelques années, etc., etc., qu'aurait pu déjà donner les indices de ce qui se passait. Mais voilà, tout d'un coup, il y a le couvercle quand même qui saute et on découvre, en partie en tout cas, une réalité pas tout à fait soupçonnée malgré tout, d'une violence quand même grande, parce qu'on parle d'exclusion professionnelle, ce qui est un des éléments communs aux témoignages qui ont été publiés, c'est que de nombreuses femmes et certains hommes, hein, par ailleurs, il n'y a pas que... Voilà, c'est vraiment tous ceux qui rentraient pas dans le cadre de ceux qui étaient jugés cool, hype, par ce club de garçons, qui étaient visés, hein, donc majoritairement des femmes, beaucoup de femmes racisées aussi, et qui se disaient parfois féministes, défendant les d'égalité, qui étaient régulièrement moquées. Mais ce qu'elle raconte, c'est un sentiment d'exclusion des réseaux sociaux et d'exclusion professionnelle pour certaines. Elles disent que ça a contribué au fait qu'elles arrêtent d'être journalistes, par exemple, ou bien que ça leur a compliqué la vie pour trouver du travail, que ça leur empêchait d'avoir un poste à fixe, c'est-à-dire un CDI. Et voilà, et ça, c'est une sorte d'exclusion professionnelle organisée qui pose quand même un énorme problème à notre profession.
Vous disiez que des choses ont eu lieu avant, qui sortent d'ailleurs depuis avec cette affaire de la Ligue du LOL, et vous en rappeliez quelques exemples, Aude Loriot. C'est vrai que même des choses sont sorties dans la foulée. Par exemple, on a appris lundi que le Huffington Post avait licencié 3 de ses journalistes il y a quelques semaines en raison de propos sexistes et homophobes qu'ils tenaient dans une boucle de messagerie interne à l'entreprise. Et puis à l'école de journalisme de Grenoble, plusieurs anciennes étudiantes ont à leur tour dénoncé l'existence d'un groupe Facebook privé appelé Ultime Hate, dans lequel certains de leurs camarades se livrent à des plaisanteries souvent douteuses. Donc effectivement, comme si ça faisait effet boule de neige. Malgré tout, il y a quand même une question qui se pose. Pourquoi les femmes n'ont-elles pas parlé plus tôt à l'occasion de MeToo, puisque ça fait un an et demi que MeToo a éclaté? Pourquoi justement c'est pas plus sorti plus tôt dans les médias, alors même que, et vous étiez venues toutes les deux en parler il y a un an et demi, je le rappelais, alors même que les médias, on disait que c'était le lieu de la libération de la parole. Ça peut surprendre ça, Aude Loriot?
Oui. Oui, alors pour rebondir quand même sur ce qu'a dit Lénaïque Bredoux, moi je suis complètement d'accord, il faut vraiment parler du préjudice professionnel qu'ont subi les femmes victimes de la Ligue du LOL. Il y a eu une décrédibilisation de leur image, sur leurs compétences. Elles ont été accusées d'être là en poste parce qu'elles avaient couché avec leur rédac chef. Il y a eu une sexualisation qui s'est exprimée par un renvoi toujours à leur corps, à leur apparence, etc. Il y a une perte de confiance en soi. On sait que la confiance en soi, c'est hyper important pour les capacités professionnelles. Il y a aussi eu le fait que beaucoup ont dû quitter les réseaux sociaux, et on sait à quel point être sur les réseaux sociaux, c'est vraiment important quand on est journaliste. Donc moi, je veux vraiment...
Et d'ailleurs, cette génération, pardon de vous interrompre, d'hommes trentenaires, aujourd'hui, donc les faits ont 10 ans, hein, donc il y a 10 ans, ils en avaient plutôt 25, disons, étaient précisément des journalistes, des rédacteurs web, des journalistes qui étaient spécialisés dans les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, qui connaissaient bien le fonctionnement d'Internet. Et ça, c'est une particularité quand même.
Tout à fait. Et ça, c'est une des raisons, vous posiez la question de pourquoi ça ne sort que maintenant. C'est une des raisons, tout à fait, la domination, la peur, en fait, pour sa carrière. C'est-à-dire, à l'époque, beaucoup, moi, en fait, j'ai écrit un long papier là, qui sort normalement ce matin sur Slate, précisément là-dessus, et beaucoup de victimes me disent, j'avais peur de les dénoncer, parce qu'il y en a une qui était embauchée par un des membres de la Ligue du LOL. Elles étaient tous, il faut dire, dans une situation beaucoup plus précaire que ces hommes-là. Ils faisaient aussi un peu la pluie et le beau temps dans les médias. Donc forcément, les dénoncer, c'était risquer d'être grillé, en fait, de ces endroits. Mais il y a plein d'autres raisons, en fait. C'est vraiment... Bon, moi, je veux dire, parce que c'est exactement comme dans l'affaire Baupin. Je commence à entendre circuler des gens qui disent « Oui, mais en fait, c'est une instrumentalisation de libération qui voulait se débarrasser d'Alexandre Hervault. » J'ai une journaliste féministe de renom qui m'appelle en me disant « Oui, mais attends, derrière tout ça, il y a quand même... c'est instrumentalisé, hein, Aude. » Enfin, je commence à voir circuler quand même plein de rumeurs, et c'était exactement la même chose au moment de l'affaire Baupin. On avait dit, Lénaïque pourra mieux en parler que moi, mais elles avaient dit, toutes les victimes, elles avaient été accusées, en fait, de vouloir faire sortir ça pour dégommer quelqu'un, enfin, par intérêt, enfin, et que le timing n'était pas anodin, enfin, c'est tout ce genre de rumeurs qui avaient circulé. Il faut dire, c'est vraiment, pourquoi ça ne sort que maintenant? Dans toutes les affaires de harcèlement sexuel, de violence sexuelle, très 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 souvent, ça met un temps très long avant de sortir. C'est toujours comme ça. C'est un grand classique. Pourquoi? Parce qu'elles minimisent déjà ce qui leur est arrivé. Parce qu'elles ont une perte de confiance en elles qui fait que c'est très difficile de parler. Parce qu'il y a la honte, parce qu'il y a la peur d'être à nouveau cyberharcelée aussi. Parce qu'aussi...
Et ça, c'est des mécanismes qu'on retrouve partout, qui n'est pas un mécanisme propre au milieu journalistique, mais qui est plutôt un mécanisme propre au harcèlement et au cyberharcèlement. Complètement. Lénaïque Bredoux, sur cette question de pourquoi ça n'est pas sorti plus tôt dans les médias, alors même que les médias étaient le lieu de la libération de la parole des femmes.
Non, parce que simplement, les médias ressemblent à la société. Alors, ce qui, d'un certain côté, est rassurant, et ce qui, dans ses travers, l'est pas du tout. Mais simplement, les femmes journalistes sont comme n'importe quel salarié dans les milieux professionnels. Dans le travail, hein, la plupart des femmes qui dénoncent des violences sexuelles sur leur lieu de travail, en tout cas jusqu'à ces dernières années, bon voilà, il faut peut-être espérer quand même que ça s'améliore, avaient de très fortes chances soit d'être mutées d'office, soit carrément de perdre leur travail. Les associations qui travaillent sur ces sujets montraient des statistiques parfois effarantes, hein, des dossiers qu'elles avaient, allant jusqu'à 90% des femmes perdant leur travail quand elles dénonçaient des violences sexuelles sur leur lieu de travail. Donc on peut considérer là qu'on est presque dans le lieu de travail et que du coup il y a une telle peur de perdre un travail. Encore une fois, dans un secteur, comme disait Aude, très où quand même la précarité règne en maître, c'est-à-dire quand même vouloir être journaliste aujourd'hui, c'est quand même prendre un gros risque d'être pigiste, d'être précaire, de galérer pour avoir des contrats, et donc du coup de pas vraiment pouvoir se permettre de se fâcher avec grand monde, ce qui renforce évidemment la difficulté. Et donc je pense tout simplement, hein, que de ce point de vue-là, la presse, voilà, dans ses mécaniques d'entreprise, en fait, ressemble aux autres entreprises. Et par ailleurs, je voudrais quand même souligner que certes, la Ligue du LOL, là, il y a un phénomène extrêmement spectaculaire d'une jeune génération soi-disant dans les titres dits progressistes ou se proclamant progressistes.
Ah oui, c'est à la presse étrangère notamment, hein, note que la plupart des journalistes concernés ont travaillé dans des journaux dits de gauche, progressistes, féministes, tendance, et qui faisaient l'inverse de ce qu'ils écrivaient partout.
Eh ben voilà, en général, par ailleurs, c'est là aussi où parfois la parole se s'entend le mieux ou se libère le plus, parce que justement cette contradiction est insupportable entre les valeurs proclamées et la réalité des faits. On l'a vu aussi parfois dans les partis politiques, où c'est parfois plus dans les partis dits progressistes ou de gauche que des affaires ont été révélées. C'est aussi parce que cette contradiction, elle rend la situation encore plus forte. Mais juste, évidemment, les violences sexuelles n'existent pas que dans la presse de gauche. Évidemment, elles ne sont pas nées avec la Ligue du LOL, et évidemment, elles ne se résument pas à un groupe de trentenaires parisiens. Les conditions de travail de plein de femmes journalistes et de plein de femmes dans la presse, il n'y a pas que des journalistes dans la presse, sont parfois très difficiles. C'est un milieu qui est parfois extrêmement sexiste, mythifiant, le grand reporter, l'enquêteur, très viril, des techniciennes racontant les mains aux fesses dans les studios, il y en a quand même eu beaucoup pendant toutes ces dernières décennies. C'est pas non plus nouveau, hein, c'est pas du tout pour nous. Il faut quand même remettre aussi le fait que le sexisme dans la presse n'est pas apparu avec la Ligue du LOL et ne se cantonne pas à Libération ou Les Arocs, ce serait beaucoup trop facile.
Et à une trentaine de journalistes, donc c'est l'arbre qui cache la forêt, Aude Loriot. C'est un milieu comme un autre, c'est un milieu pire que les autres, les milieux de la presse.
Moi, je pense que en fait, c'est partout la même chose. Je pense que ce qui est spécifique au monde du journalisme, au niveau du cyberharcèlement, c'est que les journalistes sont plus sur les réseaux sociaux. Donc les femmes, vous savez qu'il y a une enquête de l'Association internationale des journalistes qui dit que 2/3 des femmes journalistes sont cyberharcelées. Donc au niveau du cyberharcèlement, il y a quelque chose de spécifique sans doute parce que les journalistes sont plus sur les réseaux sociaux. Au niveau du harcèlement en général, non, c'est partout pareil. Moi, j'ai co-écrit un livre avec l'historienne Mathilde Larère, et on démontre exactement ces mêmes mécanismes qu'on voit dans la Ligue du LOL, une logique de concurrence où en fait des hommes blancs vont utiliser les failles, c'est-à-dire une identité sociale stigmatisée, des aspects stigmatisés de certaines personnes pour mieux pouvoir les dégommer. C'est en fait, c'est discriminer pour mieux régner, pour mieux asseoir sa domination, pour mieux conquérir des places, pour mieux éliminer la concurrence. Je vais vous donner un exemple que j'ai rappelé récemment sur les réseaux sociaux. En 2001, au moment des débats sur la parité, il y a un quatuor de trentenaires masculins avec Laurent Bouvet, Laurent Baumel et deux autres personnes.
Le fondateur du Printemps Républicain.
Voilà, exactement. Qui font une tribune, un appel pour dire nous ne voulons pas, nous nous opposons à la parité parce que ça lèse les trentenaires de sexe masculin qui voudraient accéder aussi au poste pour les législatives. Donc, en fait, on voit bien ici que c'est une logique de concurrence. On veut exclure les femmes parce qu'elles peuvent nous piquer des places.
Dans La Fabrique ce matin, nous nous intéressons à la Ligue du LOL quand MeToo s'invite dans les médias avec nos deux invités journalistes, Aude Loriot de Prenon La Une et Lénaïque Bredoux de Mediapart. Alors la question qui se pose maintenant, c'est comment on lutte contre tout ça? Alors un, contre le cyberharcèlement d'une part, et puis deux, contre ce genre d'attitude dans les médias. Est-ce qu'on lutte dans les médias comme partout ailleurs ou bien de façon spécifique? Je pense à cette tribune signée, je le rappelais, par 600 étudiantes et étudiants en journalisme, justement dans Libération, tiens, et qui parle de la formation formation des journalistes au traitement médiatique des questions de genre, ou bien de la formation des journalistes, c'est-à-dire du recrutement aussi, halte à la cooptation et à l'entre-soi d'hommes blancs hétérosexuels, disent-ils. Aude Loriot, sur cette question, comment on fait ?
Alors moi, je salue vraiment cette tribune des étudiants et étudiantes en journalisme. Je l'ai trouvé vraiment super. Il y a plein de recommandations, notamment la parité au niveau des directions d'école et dans les chez les enseignants aussi en école de journalisme. Et puis
une meilleure représentation des femmes et des groupes minoritaires dans les instances dirigeantes des médias.
Enfin. Voilà, exactement. Et puis cette tribune, elle porte en plus des choses que nous portons aussi, par exemple sur le fait de faire des formations aux stéréotypes de genre et aux stéréotypes type raciste et toutes les discriminations. Il faut tout englober. De toute façon, tout se tient. Ça aussi, nous, on milite vraiment pour ça. C'est pas systématique aujourd'hui. Vous vous rappelez qu'en 2014, il y avait eu une fronde des écoles de journalisme au sein de la conférence des grandes écoles pour s'opposer à un amendement dans la loi égalité pour que ces formations deviennent systématiques. Alors, ils avaient crié oh, nous sommes libres, nous sommes des journalistes, nous ne voulons rien nous faire imposer. Bon, ben, moi, je pense qu'il est peut-être temps maintenant que ce soit systématique dans les écoles.
Lénaïck Bredoux, sur cette question.
Effectivement, c'est sûr, hein, comme dans tous les milieux professionnels, la formation des étudiants et des étudiantes est un moment privilégié pour essayer quand même de faire prendre conscience des dynamiques de domination, des stéréotypes, etc. Et puis aussi dans les rédactions, hein, il faut que dans les rédactions, il y a des instances représentatives du personnel, des comités d'entreprise, des CHSCT, enfin, ben, tout ça est fusionné avec la loi Macron, mais des délégués syndicaux, il faut aussi que les syndicats de journalistes remplissent leur rôle, et encore une fois, pas que de journalistes, hein, de l'ensemble des personnels. Voilà, il faut aussi sensibiliser. Il existe des possibilités de formation dans les entreprises de prévention des violences sexistes et sexuelles. Il y a de plus en plus de médias à les faire. Je pense que c'est aussi important, hein, que parce que ça va ensemble. Si on réfléchit aux pratiques comme salariés dans l'entreprise, à comment on se comporte avec nos collègues hommes, nos collègues femmes, nos collègues LGBT, enfin toutes les discriminations. Si on réfléchit à ça, on aura aussi, quand on est journaliste, dans la pratique de son travail, une meilleure pratique de comment on écrit nos articles.
C'est ce que vous faites à Mediapart, Lénaïck Bredoux ?
Bah, en fait, à Mediapart, on a mis en place dans la foulée de l'affaire Baupin en 2016, hein, là pour le coup, les premières formations sur la prévention de violences sexistes et sexuelles à destination de l'ensemble des salariés, qu'on a renouvelé en fait depuis, parce qu'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées, puis parce que ça fait jamais de mal. Voilà, c'est des questions qui ont été. Il y a eu une assemblée des femmes, hein, de l'ensemble des personnels, journalistes et non journalistes, qui s'est réunie à plusieurs reprises au cours de l'année dernière pour discuter, voilà, de comment on fait, voilà, de voir s'il y avait des problèmes, des soucis, des discussions sur comment améliorer un peu la situation pour tout le monde. Et je pense que c'est partie des choses, voilà, qu'il faut faire, dont il faut pas avoir peur, qu'il faut saisir pour que, un, les choses puissent être dites, et deux, trouver les meilleurs outils pour que tout le monde se trouve à sa place.
Aude Loriot.
Oui, et je tiens à rappeler aussi, parce que c'est important, il faut que les rédactions établissent un process en cas de cyberharcèlement. Nous, à Prenons la Une, on se tient à la disposition de toutes les rédactions qui ont besoin d'aide pour pouvoir établir ce process. Il y a par exemple le fait de mettre les services juridiques de la rédaction à disposition de la personne. Il y a le fait de mandater une personne tierce qui puisse tenir les réseaux sociaux à la place de la personne cyberharcelée pendant le temps qu'elle se repose et que l'attaque passe. Il y a aussi le fait de faire constater les insultes, etc. par un huissier. C'est important aussi pour avoir des preuves si on veut porter plainte. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, il y a aucun processus clair qui est établi dans la plupart des rédactions. Donc, il faut travailler à ça.
Aude Loriot, juste un dernier petit mot sur les choses qui ont évolué depuis 18 mois. Vous diriez que les choses vont dans le bon sens. Par exemple, que le seuil de tolérance est plus bas aujourd'hui, en particulier chez les femmes. On accepte quand même beaucoup moins de choses.
Complètement. C'est exactement la chute de mon article.
Ah bah écoutez, sort aujourd'hui. Je l'ai pas lu. Il sort aujourd'hui sur Slate. On ira le lire. Merci beaucoup, Aude Loriot. Et merci à vous, Lénaïck Bredoux, d'avoir participé à cette fabrique médiatique.